4 months away. You got to get your tickets, Jim, because they're going fast and it can't last. All right now, the time is 7:54 and there's a breeze of 50 degrees around your M11 hips. And the weatherman says we have a taste of fog. I say we got a bowl of soul, and if you think your heart can take it, woo, come fly higher with the heavy.
Canal Sud, 92.2. Un frisson dans la nuit.
Puisque je ne veux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile. Puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. Le monde, mon semblable, mon frère.
When you get there, there isn't anywhere there. Gertrude Stein a écrit un jour, à Auckland peut-être, il n'y a pas de là, là. En fait, la citation en anglais, c'est « When you get there, there isn't anywhere there. » Quand vous arrivez là, il n'y a pas de là, là. Peut-être faut-il entendre dans cette citation que le Auckland qu'elle a connu, dans lequel elle avait grandi, avait tellement changé, s'était tellement développé, que le là de son enfance, ce là-là, avait disparu. Et qu'il n'y avait plus de là, là. En gros, ce qui m'arrive quand je prends l'avenue de Lyon à Toulouse, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que mon là, qui n'est plus là, n'empêche pas les autres de vivre là. Mais ce n'est pas mon propos de regretter quoi que ce soit. Ce qui arrive là est aussi de ma responsabilité. Marx, Karl, bien sûr, a suggéré quelque part qu'augmenter le niveau de vie aurait une influence néfaste sur la solidarité. illustration quotidienne de ce qu'on vit. Le capitalisme, qui a bien sûr des ressources de tout ordre, s'est bien gardé d'exploiter à mort le prolétariat et a réussi à lui faire croire que la vie bourgeoise était à leur portée. Non pas en rognant sur ses profits, mais en exploitant brutalement d'autres. Aujourd'hui, le rêve bourgeois reste un rêve, et même semble être le seul rêve. Et la solidarité est passée à la trappe. J'abuse sans doute des comptoirs populaires, parce que je suis sans doute dans mon monde, et parce que la boisson se révèle simple et n'a pas besoin de raison. Et ce qu'on y entend n'est pas pire que dans certaines universités de saison. C'est simplement la forme qui est la plus étrange, moins polissée. Bref, j'entre dans Concarneau pour boire un café. Un centre-ville qui ressemble à tous les centres-villes, un parking payant et assez complexe dans son fonctionnement, des arbres en pot, c'est ce qu'on appelle le verdissement de la ville, et un groupe de punk amateurs de 8-4 écoute Berrurier Noir. Ça rajeunit pas. Berrurier, ça me rappelle les innommables de comptoir. Un petit tour dans Concarneau, une histoire de sandwich, et je tombe sur un graffiti, un beau grand graffiti. La police ne tue pas, la transphobie ne tue pas, et moi, je n'écris pas sur les murs. La police ne tue pas, l'homophobie n'existe pas, le racisme ne tue pas, etc., etc. Et moi, je ne parle pas à la radio. La France doit être le seul pays qui pense régler les problèmes à coups de loi. Avec comme conclusion cette remarque de Manuel Valls, bon, qui n'est pas connu pour son intelligence, cette remarque de Manuel Valls, la France n'est pas un pays raciste puisqu'il y a une loi qui condamne le racisme. Ou il est vraiment imbécile, ou il est d'un cynisme commun à beaucoup d'hommes politiques. La France n'est donc pas un pays raciste. Mais vaut mieux ne pas se prénommer Ali. Personne ne vous confondrait avec Ali McGraw, star hollywoodienne qui a joué dans Love Story et Guet-apens. Par contre, il vaut mieux pas se prénommer Ali si on cherche un appart, un boulot, une école alsacienne, une reconnaissance quelconque ou lors d'une rencontre avec la police. Et j'en passe quelques autres phénomènes de discrimination. La loi permet donc de tout régler. Il suffit de dire aux personnes « c'est interdit » pour qu'ils changent leurs convictions profondes et qu'ils ne comprennent pas les sous-entendus particulièrement, bien entendu, d'un Ciotti ou Candela. La France n'est pas raciste et surtout pas sa police à qui ne s'applique pas la loi quand elle qualifie tout un pan de la population française de parasite. La police a-t-elle réellement changé depuis les années 30 ? La police, non. La cible, oui. Il est toujours intéressant d'avoir un bouc émissaire à dénoncer. Mais choisissons ceux qui n'ont que peu d'influence sur la politique et l'économie et qui sont déjà marginalisés. C'est plus facile. Je reste très perplexe et vous me verrez très dubitatif quand on dit que la France n'est pas communautariste. Ces communautés sont plus ou moins grandes et il n'est pas surprenant d'appartenir à plusieurs communautés. D'abord, la définition de la communauté. État, caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. Communauté de biens, d'intérêts. Identité dans la manière de penser de plusieurs personnes, une communauté de vues. Ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. Communauté ethnique, linguistique. Disons que c'est certainement celle-là, la définition que l'on pointe quand on parle de communautarisme. Enfin, telle que l'entendent Darmanin, Valls, Macron et tous leurs affidés. Ce qu'ils déduisent de ce communautarisme, nos penseurs de la déviance, Darmanin, Valls et les autres présidents ou pas, c'est le repli sur soi, c'est-à-dire aux gens qui nous ressemblent et avec qui l'on se sent bien. La non-intégration ou allégeance au French concept, une suspicion voire de sérieux doutes envers une démocratie qui met le suffrage universel comme acmé de son système et qui se satisfait que la majorité des électeurs ont plus de 65 ans, dont la moitié vous disent qu'ils ont toujours voté socialiste, dont la plupart craignent l'insécurité alors qu'on ne les a jamais vus dehors après 19h, ils ne savent même pas que les boulangeries ferment souvent à 20h. Ils s'en foutent, ils ont acheté le pain à 7h, ahem. Et pour revenir à ces électeurs de plus de 65 ans, dans une grande partie, ont basculé dans le grand âge. Disons le bonus, ou pour eux, le cadeau bonus. Enfermés dans des EHPAD, et dont les grandes sorties sont les jours d'élection, où certains se rappellent qu'ils ont un vieux quelque part. Bref, un certain doute sur la démocratie représentative qui ne représente qu'une seule classe sociale. Que font-ils les communautaristes? Ah oui, ils complotent. Ce que je fais assez souvent dans les bars à l'heure de l'apéro. En résumé, nous devisons sur le « rien ne va » et sur le cynisme des French gouvernants. Vous aurez compris que je suis dans une communauté des types qui parlent politique en buvant l'apéro. Mais une subdivision de cette communauté qui est assez large, ceux qui parlent politique en buvant du muscadet et qui ne regardent jamais un journal télévisé. Si ma définition du communautarisme a quelques défauts, je veux bien que vous m'aidiez. Ah oui, j'oubliais la pratique alimentaire et vestimentaire. J'ai toujours été étonné par les rendez-vous vin saucisson. Je n'y voyais qu'une déclinaison d'un apéro, mais là, l'insistance avait quelque chose d'ostentatoire et de communautaire. Ceux qui ne mangent que du saucisson. Donc avant de lire le prologue d'ici, et puis ici, de Tommy Orange, qui rappellera beaucoup ce qu'est en fait la colonisation, nous donnerons quelques exemples, non pas de l'intégration à la française, mais du communautarisme à la française. Ce qui relativisera l'anathème utilisé par les gouvernants contre ce qui pourrait être un communautarisme musulman et qui n'est qu'une position de repli face à un racisme ambiant. Égrenons quelques communautés. Certaines se chevauchent à certaines heures du jour et de la nuit, d'autres sont irrémédiablement incompatibles. Certains d'entre nous échappons à ce communautarisme parce que nous sommes des girouettes peu attachées aux contingences matérielles. Nous avons donc la communauté des gens qui étaient socialistes et sont devenus macronistes dans la crainte que leur retraite ne soit pas payée. Cette communauté croise celle des propriétaires de SUV, pas totalement, mais comme il est difficile de descendre d'une Lamborghini sans être ridicule à partir d'un certain âge, vaut mieux un grand carrosse avec marchepied. Cette communauté d'ailleurs croise celle qui soutient la police, même dans les circonstances les plus douteuses. Mais pas totalement, parce que les croise plus sûrement la communauté de ceux qui ont une maison en banlieue, un canapé d'angle, sous la table basse une bouteille de pure malt. Le single malt n'est pas encore arrivé sous ces tables d'employés. La communauté de ceux qui ne supportent pas la police, qui croisent ceux qui en ont peur. La communauté de ceux qui pensent que la révolution est la seule solution, qui croisent celle de ceux qui se demandent avec qui l'affaire. Quand je précise que ces communautés se croisent, cela ne veut pas dire qu'elles sont incluses. Et on peut imaginer quelqu'un qui penserait que la révolution est la seule solution et qui posséderait un SUV. Ça me rappelle ce texte édité par Blast, tiré de l'excellent livre d'Hélène Meloy, « C'est d'ici que nous regardons d'autres villes croître à en perdre la raison ». Donc, tiré de ce livre, la controverse intime du possesseur de SUV écologiste. Lors de mon dernier voyage en Californie, je me suis retrouvé coincé dans un bouchon sur l'autoroute. Trois voies de véhicules vomissaient leur gaz d'échappement. Leur vapeur faisant éclater mes quelques cellules de matière grise restantes, comme du papier bulle. Me mettant presque KO, que si la circulation en était venue à retrouver son rythme originel, mon état aurait sans aucun doute provoqué un second embouteillage, me laissant, moi, avachi sur mon volant, des stalactites de salive dégoulinant sur la charmante moquette argentée de ma voiture de location. Et les autres conducteurs, leur sang bouillonnant, dopé à l'expresso, se mettant à me haïr et à me tirer dessus. La voiture me précédant dans le bouchon était une BMW, télécopieur et jacuzzi inclus. Son autocollant m'annonçait « Je préférerais être chasseur-cueilleur ». Contradiction qui rend les choses peu claires. Mais ça rappelle ce qu'avait fait Bourdieu dans la distinction, le croisement entre ceux qui portent un Marcel et ceux qui écoutent de la musique classique. Ce croisement est rare mais possible. Mais ce qui ressortait surtout, c'est qu'il y avait des pratiques de classe qui immanquablement créaient des communautarismes, puisqu'il n'est pas facile de se décréter transfuge communautaire. Vous pouvez en décliner à l'envi de ces communautarismes français, ce qui montre que le pays de l'intégration a quand même quelque mal avec l'intégration de tout le monde, bien sûr.
Yeah.
ici n'est plus ici. Au temps des ténèbres, y aura-t-il encore des champs ? Oui, il y aura encore des champs sur le temps des ténèbres. Bertolt Brecht. Tête d'Indien. Il y avait une tête d'Indien, la tête d'un Indien, le dessin de la tête d'un Indien aux longs cheveux, paré d'une coiffe de plumes d'aigle. Dessiné par un artiste anonyme en 1939 et diffusé jusqu'à la fin des années 70 sur tous les écrans de télé américains, une fois les programmes terminés. Cela s'appelait la mire à tête d'Indien. Si on laissait la télé allumée, on entendait le son d'une fréquence de 440 Hz, celle servant à accorder les instruments. Et on voyait cet Indien entouré de cercles pareils à ceux de la lunette de visée d'un fusil. Il y avait ce qui ressemblait à une cible au centre de l'écran, et des chiffres comme autant de coordonnées. La tête de l'Indien était juste au-dessus de la cible, comme s'il suffisait de hocher le menton en signe d'approbation pour l'avoir dans la ligne de visée. Ce n'était qu'une mire. En 1621, peu après une session de terre, les colons anglais invitent Massasoit, chef des Wampanoag, à un banquet. Massasoit arriva avec 90 de ses guerriers. C'est en mémoire de ce repas que nous partageons toujours le dîner de Thanksgiving en novembre, pour le célébrer en tant que nation. Mais ce repas-là, c'est là une session de terre. Deux ans plus tard, il y en eut un autre, identique, pour symboliser une amitié éternelle. 200 Indiens furent décimés ce soir-là par un poison inconnu. Quand Metacomet, fils de Massasoit, devint chef, il n'y avait plus de repas partagé entre Indiens et pèlerins. Metacomet, également connu sous le nom de roi Philippe, fut contraint de signer un traité de paix avant de pouvoir déposer les armes. Trois de ses hommes furent pendus. Son frère, Wamsutta, fut, disons très probablement, empoisonné après avoir été convoqué et capturé par le tribunal de Plymouth. Tout cela déclencha la première guerre indienne officielle. La première guerre contre les Indiens, la guerre du roi Philippe. 3 ans plus tard, la guerre était finie et Metacomet en fuite. Il se fit arrêter par Benjamin Church, capitaine de la toute première unité de Rangers américains, et par un Indien du nom de John Alderman. Metacomet fut décapité et démembré, écartelé. On attacha les différentes parties de son corps à des arbres alentour pour les offrir aux oiseaux de proie. Alderman se fit remettre une des mains de Metacomet, qu'il conserva dans un bocal de rhum et dont il se sépara plus pendant des années, faisant payer quiconque voulait l'avoir. La tête de Metacomet fut vendue à la colonie de Plymouth, contre 30 shillings, le prix d'une tête d'Indien à l'époque. Elle fut plantée sur une lance et exhibée dans les rues de Plymouth, avant d'être exposée au fort de la colonie les 25 années suivantes. En 1637, entre 400 et 700 Pequots se rassemblèrent comme chaque année pour la danse du maïs vert. Les colons encerclèrent leur village, l'incendièrent et abattirent tout Pequot qui tentait de s'échapper. Le lendemain, la colonie de la baie du Massachusetts organisait un banquet pour fêter l'événement et le gouverneur proclama un jour d'action de grâce. Ce type d'action de grâce survenait partout, chaque fois qu'il y avait ce qu'il faut bien appeler un massacre couronné de succès. On raconte qu'au cours d'une de ces fêtes à Manhattan, les habitants célébrèrent l'événement à travers les rues en donnant des coups de pied dans les têtes d'Indiens comme s'il s'agissait de ballons. Le premier roman, jamais écrit par un Indien, et par ailleurs le premier roman publié en Californie, parut en 1864. Son auteur était un Cherokee du nom de John Rolly Ridge. La balade de Joaquim Murrieta s'inspirait d'un hors-la-loi mexicain du même nom ayant soi-disant existé et qui en 1853 fut abattu par un groupe de Texas Rangers. Pour prouver qu'ils avaient bien tué Murrieta et se faire remettre la récompense de $5,000 qui pesait sur sa tête, ils la coupèrent, la mirent dans un bocal de whisky. Ils prirent aussi la main de son complice, Jacques les Trois Doigts. Les rangers emportèrent la tête et la main en tournée à travers la Californie, faisant payer $1 à qui voulait l'avoir. La tête d'Indien dans le bocal, la tête d'Indien au bout d'une lance étaient comme des drapeaux hissés. exposée au regard, diffusée à foison. Tout comme la mire à tête d'Indien fut diffusée aux Américains endormis tandis que nous quittions le havre de notre salon, naviguions sur les ondes bleu-vert de l'océan, jusqu'au rivage, aux écrans du Nouveau Monde. Il existe un vieux conte cheyenne à propos d'une tête qui roule. On raconte qu'une famille avait quitté son campement pour s'installer près d'un lac. Mari, femme, fille, fils. Le matin, quand le mari s'arrêtait de danser, il brossait les cheveux de sa femme et lui peignait le visage en rouge, puis partait à la chasse. À son retour, le visage de sa femme était lavé. Comme cela se produisit plusieurs fois, il décida de la suivre à son insu pour savoir ce qu'elle faisait en son absence. Il la vit dans le lac, avec un monstre marin, une sorte de serpent enroulé autour d'elle comme en une étreinte. L'homme dépeça le monstre et tua la femme. Il rapporta la viande chez lui à son fils et sa fille. Ils remarquèrent qu'elle n'avait pas le même goût que d'habitude. Le fils, qui prenait encore le sein, dit « Ma mère a exactement le même goût ». Sa grande sœur lui répondit que c'était simplement de la viande de chevreuil. Tandis qu'il mangeait, entra une tête qui roulait. Ils s'enfuirent en courant et la tête les poursuivit. La sœur se souvint de l'endroit où ils avaient coutume de jouer. des gros buissons épineux qui se trouvaient là-bas. Mais la tête les traversa sans s'arrêter. Puis, elle se souvint de l'endroit où des monticules de rochers rendaient le passage difficile. Les rochers apparurent quand elle les invoqua, mais n'arrêtèrent pas la tête. Alors elle traça une ligne au sol qui creusa un profond gouffre que la tête ne put franchir. Mais une longue pluie torrentielle remplit le gouffre d'eau. La tête traversa l'eau et une fois sur l'autre rive, se retourna, puis but toute l'eau. La tête qui roulait fut désorientée par l'ivresse. Elle voulait plus de choses, plus de tout. Elle se remit à rouler. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour avancer, c'est que personne n'a jamais jeté de tête à bas des marches d'un temple. C'est Mel Gibson qui a inventé ça. Mais ce qui demeure dans nos esprits, pour ceux d'entre nous qui ont vu le film, ce sont ces têtes jetées en bas des marches d'un temple dans un monde censé ressembler à l'authentique monde indien du Mexique des années 1500. Des Mexicains avant qu'ils ne deviennent Mexicains, avant l'arrivée des Espagnols. Nous avons été définis par tous les autres et continuons d'être calomniés malgré les faits amplement vérifiables sur Internet quant à la réalité de notre histoire et l'état actuel de notre peuple. Nous avons la triste silhouette indienne soumise et les têtes jetées à bas les marches d'un temple. Nous avons cela dans la tête. Kevin Costner nous sauvant, le six coups de John Wayne nous abattant, un Italien du nom d'Iron Ace Cody jouant notre rôle dans les films. Nous avons l'Indien de la pub, affligé de voir tant d'ordures répandues. La larme à l'œil, toujours Iron Cody. Tandis que l'Indien fou qui lance le lavabo sur une baie vitrée d'un vol au-dessus d'un nid de coucou et qui est le narrateur, la voix du roman. Nous avons tous les logos et toutes les mascottes. La copie de l'image d'un Indien dans un manuel scolaire, des confins du nord du Canada, du nord de l'Alaska, jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, des Indiens ont été éliminés, puis réduits à l'image de créatures à plumes. Nos têtes figurent sur des drapeaux, des maillots et des pièces de monnaie. Elles ont d'abord figuré sur le penny, bien sûr, le centime frappé d'un Indien, puis sur le nickel frappé d'un bison, avant même que notre peuple obtienne le droit de vote. Des pièces qui, comme la vérité de tout ce qui s'est produit dans l'histoire, partout à travers le monde et comme tout le sang versé dans les massacres n'ont désormais plus cours. Un massacre en guise de prologue. Certains d'entre nous ont grandi avec des histoires de massacres. Des histoires sur ce qui est arrivé à notre peuple il n'y a pas si longtemps. Sur la façon dont on s'en est sorti. À Sainte-Crique, on raconte qu'ils nous fauchaient à coups d'obusier. Une milice de volontaires du Colorado, sous les ordres du colonel John Chivington, est venue en 1804 pour nous tuer. Il y avait surtout des femmes, des enfants et des anciens. Les hommes étaient à la chasse. On nous avait donné l'ordre de hisser le drapeau américain. Nous l'avons hissé avec un drapeau blanc. Reddition, disait le drapeau blanc. Nous nous tenions sous ces deux chapeaux quand ils se sont approchés de nous. Ils ont fait plus que nous tuer. Ils nous ont mis en pièces, mutilés, nous ont cassé les doigts pour arracher nos bagues, nous ont coupé les oreilles pour prendre notre argent, nous ont scalpés pour prendre nos cheveux. Nous nous sommes cachés au creux des troncs d'arbres, enfouis dans le sable puis de rives de fleuves. Ce même sable est devenu rouge de sang. Ils ont éventré les femmes enceintes pour en extirper les enfants, ont pris ce que nous aurions voulu devenir. Nos enfants avant qu'ils soient des enfants, nos bébés avant qu'ils soient des bébés, les ont arrachés à nos entrailles. Ils ont fracassé de fragiles petites têtes contre les arches. Puis ils ont pris les membres arrachés de nos corps en guise de trophée pour les exhiber sur scène. Le colonel Chivington a dansé avec des membres arrachés dans ses mains. Des toisons pubiennes de femmes. Ivre, il a dansé. Et la foule, rassemblée devant lui, est allée jusqu'à l'applaudir et rire avec lui. Ce fut une célébration.
Bye.
fulgurant. Nous amener en ville devait être la nécessaire étape finale de notre assimilation. L'absorption, l'effacement, l'achèvement de 500 ans de campagne génocidaire. Mais la ville nous a renouvelés et nous nous la sommes appropriés. Nous ne sommes pas perdus dans la ville. Nous ne sommes pas perdus dans la multitude des gratte-ciels, le flot des masses anonymes, le vacarme incessant de la circulation. Nous nous sommes trouvés, avons créé des centres indiens, sommes venus avec nos familles et nos pow-wow, nos danses, nos chants, nos vêtements brodés de perles. Nous avons acheté, loué des maisons, avons dormi dans la rue, sous des voies express, sommes allés à l'école, nous sommes enrôlés dans l'armée, avons rempli les bars de Fruit Valley à Oakland et de Mission à San Francisco. Nous avons habité dans des villages de wagons de marchandises à Richmond. Nous avons fait de l'art et des enfants. Avons permis à notre peuple d'aller et venir de la réserve à la ville. Nous ne sommes pas installés en ville pour mourir. Les trottoirs et les rues, le béton ont absorbé notre douleur. Le verre, le métal, le caoutchouc, les câbles, la vitesse, les masses déferlantes, la ville nous a avalés. Nous n'étions pas encore des Indiens urbains. Cela faisait partie de la loi sur la relocalisation des Indiens, qui faisait elle-même partie du programme d'assimilation des Indiens. Il correspondait et correspond toujours exactement à son intitulé. Qu'il soit à notre image et adopte notre mode de vie, qu'il devienne comme nous, et par conséquent qu'il disparaisse. Mais cela ne se passa pas tout à fait ainsi. Beaucoup d'entre nous sont venus par choix, pour repartir de zéro, pour gagner leur vie ou tenter une nouvelle expérience. Certains d'entre eux sont venus à la ville pour échapper à la réserve. Nous sommes restés après avoir combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, après le Vietnam aussi. Nous sommes restés parce que la ville est à l'image de la guerre et qu'on ne quitte pas la guerre après l'avoir faite. On ne peut que garder ses distances avec elle. Ce qui est plus facile quand on l'entend et quand on la voit près de soi. Ce qui est plus facile quand on l'entend et qu'on la voit près de soi, ce métal furtif, ces tirs constants autour de soi, les voitures qui fusent en tous sens dans la rue et sur les voies express comme autant de balles, le silence de la réserve, les villes le long des voies rapides, des communications, des communautés rurales. Ce genre de silence ne fait que renforcer le fracas d'un cerveau en feu. Nous sommes nombreux à être urbains, désormais. Moins parce que nous vivons en ville que parce que nous vivons sur Internet. Dans le gratte-ciel des multiples fenêtres de navigation, on nous traitait d'indiens des rues, de réfugiés urbanisés, superficiels, inauthentiques, acculturés. On nous traitait de pommes, une pomme est rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Mais nous sommes le résultat de ce qu'ont fait nos ancêtres, de leur survie. Nous sommes l'ensemble des souvenirs que nous avons oubliés, qui vivent en nous, que nous sentons, qui nous font chanter et danser et prier, comme nous le faisons. Des sentiments tirés de souvenirs qui se réveillent ou éclosent sans créer garde dans nos vies. Comme une tache de sang imbibe la couverture à cause d'une blessure faite par une balle qu'un homme nous tire dans le dos pour récupérer nos chevaux, notre tête, une pointe ou simplement notre tête. La première fois qu'ils nous ont attaqués, nous avons continué de courir même si les balles allaient deux fois plus vite que le son de nos cris. Et même quand leur chaleur et leur vitesse nous trouaient la peau, nous brisaient les os. Nous avons continué même quand nous avons vu les balles faire ondoyer nos corps dans les airs comme un drapeau qui claque. Comme tous ces drapeaux et ces édifices apparus à la place de tout ce que nous connaissons de cette terre jusque-là. Les balles étaient des prémonitions, des fantômes peuplant les rêves d'un avenir dur, fulgurant. Les balles continuaient à leur course après nous avoir transpercés devers la promesse de ce qui nous attendait, la vitesse et la tuerie. La ligne dure, fulgurante, des frontières et des édifices. Ils ont tout pris et l'ont réduit en une poussière aussi fine que de la poudre à canon. Ils ont tiré des coups de feu en l'air pour célébrer leur victoire et les balles perdues se sont envolées dans un néant d'histoire écrite à l'encontre de la vérité, vouée à l'oubli. Ces balles perdues et leurs conséquences retombent sur nos corps qui ne se méfient pas, encore aujourd'hui.
Le... Baba was raised in the era when they tried to save the man and kill the Indian.
Facts.
Fuck a residential credential, my pride on a million. I need me some cedar, some sweetgrass, some sage and tobacco. I need me some medicine. My spiritual guides never lie. Hold my loved ones in the sky. Let them in.
We ain't agitators, we educators. We ain't protesters, we protectors. Dream chasers with dream catchers. We the wildest dreams of our ancestors.
All my sisters and brothers are black, indigenous, and people of color. Let's hold it down and uplift one another.
Come on.
There's beauty in unity. Indigenous sovereignty, black liberation. We go coast to coast. Told me this the formation. This revolution will be live and then colonized.
For the next seven generations, all my relations.
More pain, more blood, more cry. More sage, more life. More pain, more blood, more cry. More sage, more life.
New beginnings, I'm writing my genesis. Old spirits return this to reddening. When the drummers are knocking me, let them in. Don't let them get back on the element. I'm out of my head again. Only get better when my pen and my pad is my medicine. I'm a savage boy, I ain't no gentleman. God damn it, I'm proud of my melanin. I met a few legends who told me together. They told me my voice is a weapon. I know that I'm nothing to mess with. My talking stick, my Smith & Wesson. Ooh, that's my buddy, my best friend. If you know I'm a thug, then you guessed it. Let's talk about what we've been blessed with.
This time now.
One love.
More pain, more blood, more cry. More sage, more life. More pain, more blood, more cry. More sage, more life.
War Club.
Urbain. On appelle indien urbain cette génération née en ville. Il y a longtemps que nous nous déplaçons, mais la terre se déplace avec nous comme un souvenir. Un indien urbain s'appartient à la ville et la ville appartient à la terre. Tout ici se forme en lien avec toutes les autres choses, vivantes ou non, issues de la terre. Tout ce à quoi nous sommes liés. Le processus amenant tout élément à sa forme actuelle, chimique, synthétique, technologique ou autre, ne fait pas de son produit autre chose qu'un produit de la terre vivante. Édifices, autoroutes, voitures, ne sont-ils pas issus de la terre? Ont-ils été acheminés depuis Mars, la Lune? Est-ce parce qu'ils sont traités, manufacturés, ou parce que nous les maîtrisons? Sommes-nous si différents? N'avons-nous pas été tout autre chose à un moment donné? Homo sapiens, organisme monocellulaire, poussière spatiale, théorie quantique non identifiable d'avant le Big Bang, les villes se forment de la même façon que les galaxies. Les Indiens urbains se sentent chez eux quand ils marchent à l'ombre d'un building. Nous sommes désormais plus habitués à la silhouette des gratte-ciels d'Oakland qu'à n'importe quelle chaîne de montagnes sacrées. Au séquoia des collines d'Oakland qu'à n'importe quelle forêt sauvage. Nous sommes plus habitués au bruit d'une voie express qu'à celui des rivières, au hurlement des trains dans le lointain qu'à celui des loups. Nous sommes plus habitués à l'odeur de l'essence, de béton coulé de frais et de caoutchouc brûlé, qu'à celle du cèdre, de la sauge, voire du fry bread, ce pain frit qui n'a rien de traditionnel. Comme les réserves n'ont rien de traditionnel. Mais rien n'est original, tout vient d'une chose préexistante, qui elle-même fut précédée par le néant. Tout est nouveau et maudit. Nous voyageons en bus, en train et en voiture, à travers, sur et sous les plaines de béton. Être indien en Amérique n'a jamais consisté à retrouver notre terre. Notre terre est partout, ou nulle part. Quand le lièvre entendit parler de la mort, il regagna sa hutte, en pleurant et en poussant des cris aigus. Mes oncles et mes tantes ne doivent pas mourir. Puis, cette pensée lui vint. Toutes les choses sont destinées à mourir. Il alla jeter ses pensées au fond d'un ravin, où elles roulèrent et s'écrasèrent. Il enfouit ses pensées dans les profondeurs de la terre, et toutes les créatures qui vivaient là s'immobilisèrent, les membres durcis par la mort. Il lança ses pensées en l'air, dans les cieux, et les oiseaux qui volaient par là churent aussitôt sur le sol, raides morts. Après être retourné dans sa hutte, il prit sa couverture, s'enveloppa dedans et s'allongea en pleurant. La terre entière ne suffira pas à accueillir tous ceux qui vont mourir. Il n'y aura jamais assez de place pour eux. Il gisait là, dans son coin, drapé dans sa couverture, et silencieux. Indien Winnebago.
A vision came to me
when the sun went into shadow and I lay dying. And in my death, I saw the heavens of the white rose. Yes, it is as they describe it. But also there, my children, all the Indians that ever roamed this earth, all your beloved ancestors and mine, and those young ones who were taken by the white man's diseases, do not grieve for them. They want you to know that they are happy. Yes. And you should not grieve for yourselves, because here is what the white rose did not tell you. The white man, my children, will soon be no more. You must not hate the white man. This will only delay his end. But if you will do the dance that I will teach you, all the ancestors will return, and the buffalo will be renewed. You shall all live forever, forever in the freedom that we as Indian people once knew.
Canal Sud 92.2, un frisson dans la nuit. C'était autour du livre de Tommy Orange. Ici n'est plus ici.
tek toma wa kwa wiki kulowa ya kuikatite aje.